Ils pourraient nous dire aujourd'hui, lorsqu'ils sont arrivés, que cette Europe-là n'était pas celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas le confort, le standing de vie. Il n'y avait pas toutes les bonnes choses que nous trouvons aujourd'hui. En fait, avec un peu de mémoire, c'est dans l'automne 1949, je pense, que Maurice et Marie sont arrivés dans la grande ville de Paris. Il n'y avait pas encore d'assemblée à l'époque, mais il y avait là une famille qui s'appelle, si je prononce bien, la famille Klampitz. Klampitz, vous voyez. Oui, cette famille était les parents, le papa et la maman de notre sœur Roberts. Alors, plusieurs ont connu frère et sœur Roberts. Jelly Roberts, qui était évangéliste à Liège. C'était là les parents de sœur Roberts. Et pendant plusieurs mois, Maurice et Marie se sont réunis avec cette famille dans les débuts de 1950, où ils ont trouvé une salle rue des Martyrs. Voilà. Et pour débuter le travail là-bas, ils ont invité un évangéliste, je pense que c'était un des seuls qui était en Europe à l'époque, qui était frère Timmerman. Et frère Timmerman est venu à l'époque à Paris. Il a débuté le bon travail par cette série de conférences. Et ce travail n'a jamais cessé d'être couronné de succès, de recevoir des bénédictions. Une des toutes grandes bénédictions, je pense, on peut le mentionner aujourd'hui, c'était pendant l'année 53. Il y avait une autre série de conférences, ou plutôt Maurice est entré dans une salle où des gens étaient assemblés pour prier, pour chanter. Et aussi, il y avait un homme qui prêchait, qui était frère le cardinal. C'est exact. Et c'est là que Maurice et Marie ont fait connaissance de celui que nous appelons très chaleureusement Pépé, et qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et Pépé et sa chère épouse avaient une fille qui était célibataire à l'époque, Colette. Et c'est dans le début de, je pense, en février 54, que Colette a vraiment fait la connaissance de Maurice et de Marie. Mais je ne vais pas m'attarder avec toute cette historique, je voulais simplement un peu rappeler les choses. J'ai connu le Seigneur en 1953, et il y a plusieurs de ces choses qui m'ont marqué à l'époque, comment Maurice et Marie appréciaient la vie en France, les choses françaises, les habits français, les chaussures françaises, Marie, et beaucoup de choses. Bien, je laisse tout de suite la place à Maurice.
Alors, je m'amusais très bien à votre histoire. Hein? C'était très bien, ça. C'est dommage que tu n'as pas continué. Je te dis, quel plaisir c'est d'être avec toi. D'être ici avec vous, tout le monde ici. Quel plaisir d'être ici en France encore, la première fois vraiment que nous sommes venus en France, c'était en 1947 avec nos deux petits-enfants. Nous avons décidé, on voulait bien faire la connaissance de la France. Nous sommes venus donc à Paris. Nous étions casernes dans l'armée en Allemagne. Près de Francfort, à Hanau, j'étais dans l'armée, j'étais capitaine dans la communication de l'armée. Et alors, nous avons pris ce voyage, et on est venu à Paris, nous aimions beaucoup Paris, et puis nous sommes descendus à Nice. Je me souviens bien quel jour c'était. C'était le 25 avril 1947. Vous me demandez pourquoi savez-vous, est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là? C'est très facile. C'est la première fois et la dernière fois Puis j'ai jamais oublié de fêter l'anniversaire de ma femme. Si cela vous est arrivé une fois, je vous assure, ça n'arrivera pas une deuxième fois. Alors, je conduisais une vieille voiture, c'était une voiture Buick de 36, de l'année 36, et nous allions donc entre peut-être, je ne sais pas, entre Marseille et Nice, et tout à coup, vers 11h du soir, on cherchait toujours notre hôtel que nous devons descendre, et ma femme s'est mise à chanter « Heureux anniversaire à moi !» Mais évidemment, mes amis, évidemment, il y a énormément de raisons que je pourrais vous donner pour cela. Vous savez bien que j'avais beaucoup de raisons. Les hommes ont toujours beaucoup de raisons, n'est-ce pas? Alors je lui ai dit, mais maman, tu sais bien que j'ai bien commandé vos bagues, d'autres bagues, il y a vraiment le brillant là-dedans. Tu sais que tout ça, ça a été tout arrangé. Et évidemment, puisque la chose était connue de toi et de moi, donc je l'ai laissé traduire. J'ai laissé une chose accomplie. Fait accompli, n'est-ce pas, Fréki? Fait accompli. Mais je t'assure que c'était pas la même chose que d'avoir fêté son anniversaire, même avec un mot. Donc, j'ai bien arrêté la voiture, là, sur la grande route, et puis, je l'ai pris dans mes bras, et je lui ai donné, j'ai embrassé ma femme, j'ai dit, excusez-moi. Et mon monsieur, elle m'a dit, et je lui ai demandé, voulez-vous me pardonner, m'excuser, je regrette. Elle a dit, mais oui, pourquoi n'avez-vous pas demandé ça il y a 30 minutes? Nous n'aurions pas eu toutes ces difficultés, cette conversation. Tu as dû le dire il y a 30 minutes. Mais les hommes n'aiment pas dire, excusez-moi, je regrette, j'ai fait une faute, c'est mes erreurs. Les hommes ne veulent pas dire cela, n'est-ce pas? Amen, les femmes. N'est-ce pas? Eh bien, je vous assure que, voilà, je me souviens bien, très bien, c'était le 25 avril 1947. Nous sommes venus donc par la montagne après, et on a jeté les boules de neige. Aussi, nous avons jeté la boule de neige dans la montagne. On est venu par ici, nous sommes allés aussi à Strasbourg. Et puis, on est remonté vers l'Allemagne. Quelque temps après, c'était Frère Gitwood qui est arrivé, et il savait bien que nous étions dans la région. Et mon oncle, qui était ancien de l'église du Christ, d'où Frère Gatewood venait, alors Frère Gatewood, il est venu, il nous a téléphoné, il est venu chez nous. Et nous avons mangé le premier dîner qu'il a eu en Allemagne, il a fait chez nous. C'était en 47. Il m'a dit, pourquoi Maurice, tu ne quittes pas l'armée pour retourner pour prêcher la bonne nouvelle? Ah, je dis, mais après 6 ans, d'ici 14 ans, j'aurai la retraite, et tout cela, etc., etc. Mais il dit, mais vraiment, je crois que ici en Allemagne, tu ferais un bon travailleur ici. Alors, donc, j'ai décidé, lorsque j'ai eu l'occasion, je vais quitter l'armée. Et j'ai fait ma démission. Heureusement, l'armée américaine a dit, toutes ces personnes qui ne veulent pas nous donner encore 2 ou 3 ans de leur vie, de leur position, doivent être en Amérique d'ici 30 jours. Alors, le sergent, il est venu, il a dit, monsieur, le capitaine, il y a ici cela, voulez-vous signer ça? J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous ne signez pas, vous devrez être en Amérique en 30 jours. Et vous serez démissionné. J'ai dit, sergent, je ne vais pas le signer. Il a dit, vous n'allez pas signer, c'est impossible. Quand vous êtes en Amérique d'ici tant de jours. Ah, j'ai dit, je regrette, c'est votre problème. Moi, je ne vais pas le signer. Et je n'ai pas signé, et on a dû nous envoyer par avion. On est venu par bateau, car dans ces temps-là, avion c'était pour les généraux, pour les colonels. Alors les simples soldats, les lieutenants et les capitaines n'allaient pas en avion. Alors, les missionnaires tous même venaient par bateau parce que c'était beaucoup moins cher. Pour 200 dollars, on pouvait venir de New York au Havre et avec vos bagages et tout cela. Donc il y a une autre chose. Mais j'ai ma femme avec moi. C'est ma femme de 57 ans. Nous remercions le Seigneur qu'elle a mis sa main entre mes mains en 1940. J'ai dit, peut-être un jour je vais être missionnaire en Chine. Car à Lipscomb, il y avait un missionnaire de Chine qui passait par là, Fred Benson. Et elle a dit, la Chine, mais il y a beaucoup de gens dans le Tennessee. Oui, beaucoup de gens qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Alors, mais elle a pensé, il va oublier tout ça. Elle m'a dit ça. Oui, elle m'a dit après, j'ai cru que vous alliez oublier tout cela, et la Chine c'était une chose oubliée. Elle a dit que j'ai fait une fois voyage de 100 km de chez moi. C'était une fois de chez moi, je suis allé à Chattanooga. Et c'était un très grand voyage, moi. Elle a dit, et maintenant il me parle d'aller vers la Chine. Enfin, je ne sais pas combien de fois nous avons fait le trajet d'ici Amérique et je sais bien, on a fait trois fois le tour du monde, je me rappelle bien ça. Elle a toujours été là. Il y a deux ou trois mois, elle était à l'hôpital, elle a passé deux jours à l'hôpital avec des difficultés, mais lorsque je parlais de venir ici, même je dis à Fréki, je ne peux pas, je crois que John serait beaucoup mieux, vous avez énormément de prédicateurs, de bien meilleurs que moi, c'est, même je suis honteux même que vous ayez demandé que je vienne, car mon français c'est bien rouillé, comme on dit en anglais, on dit rusty. Alors, mon français, et puis, mais faire qui n'est pas très facile. Mais il est doux, il est humble, mais il n'est pas facile. Hein? J'ai appris cela, je ne savais pas. Mais il était gentil, il était très gentil, et nous sommes vraiment contents d'être parmi vous. Mais j'ai cru peut-être que le frère qui voulait que je vienne justement pour, on dirait en anglais, pour mettre au lit, c'est-à-dire pour terminer la question, des dons des langues. Car si Maurice, après 50 ans, parle français comme ça, et il a tant prié d'avoir la possibilité de parler bien le français, certainement, le don des langue a disparu.
Certainement, après avoir entendu ma voix, mes paroles.
Mais peut-être je vous demanderai cela tout à l'heure, si c'était vraiment ce raisonnement. Mais j'avais étudié un peu le français lorsque j'avais l'âge de 15 ans dans la Louisiane. Et puis à Abilene, j'avais le français avec un professeur qui était très bien en allemand. Mais il était remarquable en allemand. Il n'avait jamais étudié beaucoup le français, mais il était très bon en allemand. Alors c'était Fershung, si vous vous rappelez Fershung. Et puis, je suis venu ici, et ma femme, lorsque je demandais à l'Arc de Triomphe, où elle dit, Maurice. Alors, j'ai oublié le mot. Elle me disait, je le dirai en anglais, vous le savez tous. Alors, elle dit, Maurice, stop stuttering. Quel est le mot?
Bégayer.
Ah oui, bégayer. Oui, c'est ça. C'est ça que je dis, n'est-ce pas, bégayer. Alors, elle dit, stop, arrête de bégayer, demande ce que tu veux. Mais je dis, c'est le français, oui, ce n'est pas bégayer, c'est le français. Et enfin, nous avons, c'était bien, un enfant de 8 ans, l'autre de 5 ans, nous sommes allés dans une maison où il y avait deux chambres de largeur, une chambre d'épaisseur, comme un gâteau, bien cool, bien fait, et trois chambres et le grenier, et aussi il y avait le sous-sol, mais deux chambres de largeur. Il y avait évidemment le water là en bas. Heureusement, je n'avais pas 77, mais le water était là en bas, au rez-de-chaussée. Au premier, il y avait un bar jeune homme qui étudiait, faisait des études d'art, J. Roberts, Frère Roberts. Il étudiait pour bien dessiner tout ça. Il a décidé de rester avec nous. Et aussi, Frère Anderson. Alors là, nous étions les trois. Et ils étaient là au premier. Et moi, avec ma femme et deux enfants, nous étions au deuxième. Et on allait d'en bas en haut. Et nous avions un endroit pour mettre les gâteaux. On a vidé les gâteaux vite. Très vite, on a mangé les gâteaux et ça ne servait à rien. Donc, on a mis l'argent là-dedans. Je payais 3 parts, Frère Anderson 2 parts et J. Roberts 1 part. Et lorsqu'il n'y avait pas d'argent dans le bocal, alors je venais pour mettre 3 000 francs, c'était 3 000 en ce moment-là, 3 000. On a finalement divisé ça par quelque chose. Mais alors, je mettais 3 000, Frère Roberts 1 000 et Frère Anderson 2 000. Et voilà, donc, si on avait besoin de quelque chose de manger ou de réparer la maison, on allait chercher l'argent de ce bocal. Et ça marchait très bien. Pendant 6 mois, nous avons vécu comme ça. Et nous sommes encore des amis, hein? C'est ça qui est remarquable. De très bons amis, toujours. Alors, et je crois que la raison que nous sommes toujours de bons amis, c'est parce que le Saint-Esprit vit dans le cœur de moi et ma femme, de Melvin et Iva. Et aussi le Saint-Esprit vivait aussi dans le cœur de J. Roberts. Et voilà donc, j'arrive à mon sujet. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je suis arrivé quand même, n'est-ce pas? Alors, le sujet, la personne du Saint-Esprit est très important. Et si vous voulez ouvrir vos Bibles pour le premier verset de l'Ancien Testament, nous allons voir le commencement de la Bible du Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Voilà l'Esprit de Dieu. Et je crois que vous le trouverez 88 fois dans l'Ancien Testament et 280 quelques dans le Nouveau Testament. Non pas toujours le Saint-Esprit, ça pourrait être l'Esprit de Dieu. Il y a plusieurs noms utilisés, mais toujours la même personne. Et pourquoi je dis personne? Parce que je suis persuadé, évidemment, que c'est une personne. Et je vous demande maintenant de lire avec moi un verset qui se trouve à la fin de votre Bible, de l'Apocalypse, chapitre 22, et verset 17. L'Esprit et l'épouse, c'est remarquable, n'est-ce pas? Le premier verset, le commencement de la Bible, et maintenant, à la fin de la Bible, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà, du commencement jusqu'à la fin, vous trouverez le Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit est trouvée partout dans la Bible. Le Saint-Esprit entre dans Saul, Saül. Le Saint-Esprit est parti de Saül lorsqu'il a désobéi à Dieu. Le Saint-Esprit est entré en David. Certainement, le Saint-Esprit se trouve en Joseph et dans les beaucoup de personnes qui sont décrites dans la Bible. Mais les Écritures, partout dans les Écritures, et je vais vous donner, je peux vous donner une feuille, je regrette que je n'ai pas fait pour vous, une feuille où tous les noms sont décrits, mais je vous passerai cela si ça vous intéresse. Je peux vous le passer. Je n'avais pas d'ordinateur, n'est-ce pas, frère qui, dans le français. C'est dommage, n'est-ce pas? Ah, c'est dommage. Mais enfin, nous avons vu que le Saint-Esprit, est une personne. C'est enseigné dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Le Saint-Esprit est mentionné en 23 des 36 livres de l'Ancien Testament. Il est toujours mentionné, non pas comme simple influence, non pas comme quelque chose, ni comme une simple disposition. Mais les Écritures enseignent que la divinité se compose de trois personnes désignées comme l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Alors, mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et finalement, Matthieu 28, 18 à 20, où Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En 2 Corinthiens 13 et 13, l'apôtre Paul a écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alors, lorsque le Christ a été baptisé, les trois étaient présents. Donc, vous voyez, c'est merveilleux de voir la personne du Saint-Esprit et ce qu'il fait. Je pourrais vous donner davantage de références dans la Bible, mais je crois que si vous voyez que le Saint-Esprit est une personne centrale du Nouveau Testament ainsi que l'Ancien Testament, ça suffira. Jésus lui-même parle aussi des trois personnes en parlant, en le voyant pour une minute, Jean chapitre 14, et en voyant versets 16 à 17. En Jean 14, vous savez que Jean, c'était le chapitre qu'on nous a donné et on nous a demandé donc de lire, n'est-ce pas, un des chapitres que nous devons lire pour le travail ou pour le concours. Et c'est là donc la promesse du Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, verset 15, chapitre 14. Et puis verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Grâce à Dieu, il dit en parlant à ses disciples, vous aurez le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous encore un peu de temps. Et il continue. Et en sautant jusqu'au verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, je vais vous envoyer, il dit. Et maintenant il dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Voilà qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ce Saint-Esprit? Alors verset dans le chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement, il dit à ses disciples. Alors le Saint-Esprit ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils furent présents lors du baptême, comme vous le savez bien, en Matthieu 3, 16 à 17. Alors le baptême de la nouvelle naissance, nouvelle alliance est accomplie au nom des trois personnes, Matthieu 28, 18 et 19. Quand Paul a donné sa bénédiction, il a cité les trois personnes de la divinité. Alors, Saint-Esprit est une personne. et par éloignance de sa personnalité, nous voyons que, comme, et c'était remarquable, lorsque je faisais des études pour présenter ma petite leçon, j'ai vu que quelqu'un, il y a peut-être c'était frère H. Leo Bowles, qui a étudié beaucoup la question. Il a mis en ordre un peu les indications de la personnalité du Saint-Esprit. Et dans presque tous les autres livres que j'ai lus, alors, c'était noté exactement dans le même ordre. Je ne vois pas que les gens aient donné à frère Bowles qui nous a dit. Alors j'ai trouvé cela écrit dans le livre de frère Bowles, mais néanmoins, il dit que le Saint-Esprit parle et il donne 1 Timothée 4:1 comme référence avec l'autre. Il enseigne, le Saint-Esprit témoigne, le Saint-Esprit guide ou conduit, il mène et empêche lorsque l'apôtre Paul, il essaye d'aller vers la Chine, vers l'Asie, il essaye, mais il est empêché de le faire dans les Actes chapitre 16. Il est empêché d'aller. Et puis, lorsqu'il considère tout cela, il voit l'homme de Macédoine qui criait et qui demandait, « Venez, venez nous aider. Venez dans la Macédoine pour nous aider. » Donc, le Saint-Esprit mène et empêche. Il sonde 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Il a les facultés d'une personne. Il pense, Romains 8, 27. Il a la connaissance, 1 Corinthiens 2, 11. Il a l'amour et affection, Romains 15, 30. Il a la volonté, 1 Corinthiens 12 et 11. Il a la bonté. Il souffre du mépris et des injures, exactement comme une personne. Il peut être attristé ou vexé. Éphésiens 4, 30, Ésaïe 63, verset 10. Il peut être blasphémé, Matthieu 12 et 30 et suivant. Il peut être résisté, les Actes 7 et 5. Et 51, on peut mentir au Saint-Esprit, Actes chapitre 5 et verset 3. Donc il possède les traits d'une personnalité divine. Il est éternel. Je me rappelle, Colette, lorsque je prêchais une fois et frère de Moulin était Monsieur de Moulin en ce moment-là, SF. Je prêchais et c'était seulement quelques semaines, quelques mois que nous étions en France et M. de Moulin, il a tourné un peu la tête et il fermait un peu ses yeux. Et je me suis dit, alors je perds mon auditoire, car il n'y avait pas beaucoup, tu sais, en ce moment-là. Mais frère de Moulin disait, Monsieur Hall, ne vous en faites pas. Alors là, avec votre accent, j'entends mon oreille comme ça, je ferme un peu les yeux, je vous entends mieux. Alors il dit, certainement je vous écoute plus que si vous étiez français, parce que je dois écouter bien pour savoir ce que vous voulez dire. C'était un peu une fois lorsque nous étions à Chaumont, et on prêchait à Chaumont. Il faisait très froid. Il n'y avait que 3 personnes dans l'assemblée. Il y avait Frère Gill, qui ne parlait pas le français. Et il y avait M. Soto, qui était le seul français qui était là. Et moi, il faisait froid. On avait la petite chose à pétrole pour chauffer la chambre. beaucoup de fumée, mais pas beaucoup de chaleur. Et puis, alors, on allait là pour gratter sur les vitrines la glace qui se formait à l'intérieur. À Chaumont, il faisait très froid. Enfin, j'ai tâché de prêcher et M. Soto, il a fermé les yeux, il a baissé sa tête. Fergueil était là qui ne comprenait pas un mot de français. Et j'étais en train de prêcher. Et j'ai dit là, dans mes pensées, j'ai dit à Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Que voulez-vous? Est-ce que je dois continuer lorsque les gens sont ici? Il y en a un qui soit déjà. Ah, ici, qui dort, et l'autre ne me comprend pas. Qu'est-ce que je dois, est-ce que tu penses que je dois continuer?
Enfin,
j'ai continué. Et finalement, au moment où on disait pour les invitations, trois personnes, moi et deux. Invitation? Bien sûr. J'ai pensé. Alors, nous avons dit, et s'il y a quelqu'un dans ce grand territoire, n'est-ce pas, qui voudrait se donner à Jésus, qu'il se mette debout. Et M. Soto, il s'est mis debout. J'ai dit, Monsieur Soto, vous êtes debout. Avez-vous compris? Mais bien sûr, Monsieur Hall, vous avez dit, si quelqu'un veut se donner à Jésus-Christ, qu'il se mette debout. Mais alors, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour devenir chrétien? Mais bien sûr, Monsieur Hall. Je vous écoute, j'écoute chaque soir, chaque dimanche que vous venez ici. Mais M. Soto, vous dormiez, n'est-ce pas? Oh, mais non, M. Hall, je ne dormais pas. Il dit, presque comme faire le film de Jicat, avec votre accent et nos oreilles, il est beaucoup mieux pour moi de baisser la tête et de vous écouter comme ça. Alors j'ai dit, vous voulez vraiment devenir chrétien? Alors je suis debout, n'est-ce pas? Mais oui. Et Monsieur Soto, il s'est donné à Jésus-Christ, il a été baptisé en Christ, il est resté fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Il n'y avait que trois personnes. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup ou très peu de gens. Ça n'a pas de différence. Vous faites votre travail. Vous devez planter les graines. C'est-à-dire, quelqu'un me demande quelquefois, SF, est-ce que vous êtes en train de bâtir une église? Je crois que dernièrement j'ai appris à dire, mais non, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est Jésus qui a dit que je vais bâtir mon église. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui est en train de faire par ses serviteurs, par vous et moi et n'importe qui. Il peut utiliser n'importe qui. Alors, j'étais très content de savoir qu'il était prêt d'utiliser n'importe qui veut. Combien de temps, et avec la différence de temps, il est maintenant à Nashville, Tennessee. Je ne sais pas.
Nashville, Tennessee, vous avez 3 minutes.
À Nashville, j'ai 3 minutes. Eh bien, il faut que je fasse vite alors. Alors, mais il faut que des œuvres, il fait des œuvres d'une personne, une personne divine, à la création, son œuvre providentielle, l'œuvre de la régénération et l'œuvre miraculeuse. Il connaît tout. Il a tout pouvoir. Il est partout. Et vous avez peut-être les passages, autrement je pourrais vous les donner. Quelle promesse le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur nous a donné que je vais verser de mon esprit sur vous tous. On parle certainement de ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Il vous baptisera, Jean dit, du Saint-Esprit et du feu, Matthieu 3, 11. Alors, une promesse. Au baptême de Jésus, nous avons vu ça. Et puis, nous avons vu ça lorsque nous avons noté dans les Actes, chapitre 2. Il sait bien vous donner ce qui est nécessaire. Luc 11 et 13. Si vous savez donner de bons cadeaux même à vos enfants, vous savez que votre Père Céleste peut vous donner, il peut vous donner même le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent cela. Mais maintenant, nous n'avons pas à demander cela. Nous avons, pour commencer, nous avons à lui dire, Père, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à te suivre. Je crois qu'il y a deux choses importantes et dans ma leçon demain, je ne prendrai pas. Vous aurez entendu les histoires que je vous ai racontées. J'aurai davantage de temps à vous expliquer. J'espère que vous serez là. Comment nous devons marcher avec le Sauveur. Marcher avec le Christ. C'est ça qui est important pour nous. Et vous savez que lorsque j'entends les personnes qui me disent aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, et je le crois. Je le crois parce que lorsque nous sommes engendrés par le Saint-Esprit, Jacques chapitre 1, on est engendrés. Alors lorsqu'on est engendré, le Saint-Esprit commence à vivre en nous, je pense. Alors c'est planté en nous, ça commence à germiner. C'est comme une conception. Il y a une conception lorsque la graine, si vous voulez, est semée. Alors, il y a le commencement, la croissance. Une femme, on voit bien qu'il n'y a pas d'enfant encore. Mais déjà, il y a quand même les évidences qu'il y a. Il y aura, s'il n'y a pas quelque chose qui arrive, il y aura une naissance. Et vous voyez que les changements prennent lieu dans son corps. Les personnes me disent quelquefois, cette personne-là ne change pas. Ah oui, je dis oui, cette personne change. Mais alors, cette personne n'est pas encore au rang de Dieu. Je dis, mais au moins, cette personne change. Et puis, à la fin de 9 mois, vous voyez que cet enfant vient au monde et c'est là où on voit que l'Esprit, par sa parole, comme nous voyons en Luc chapitre 8, c'est l'Esprit, la parole a été semée, la parole de Dieu a été semée et puis l'enfant est né et il y a de l'eau qui sort de la mer comme il y a de l'eau. Nous voyons dans le baptême. Et il y a l'eau et il y a esprit. Il y a eau et esprit. Il y a des choses que nous voulons. Nous allons étudier et je vous demanderai dans les... Et je crois que frère, qui certainement il... Je crois qu'il va venir chez moi pour dormir et manger dans un mois et j'espère qu'il me donnera une minute de plus. juste un chocolat.
Vous n'aurez pas de mari, oui.
Voilà, vous n'aurez pas de mari. Voilà, voilà, vous aurez dit votre chose maintenant, ceci, ça serait pour Marie. Maintenant, je vous demande de noter ceci, et puis, simplement de noter et étudier un peu ces passages. Car c'est ceci un peu que nous voulons voir dans notre étude demain. Ô Galates, insensé, le troisième chapitre. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui veulent finir par la chair. Nous croyons que si j'ai des difficultés, je vais voir peut-être le docteur. Et je n'ai rien contre le docteur, pas du tout, au contraire, j'aime le docteur. Mais quelquefois, nous croyons aller voir celui qui est le psychiatre. Mais le psychiatre, nous avons besoin d'aller voir notre Seigneur et de voir nos frères et sœurs. Lisez, si vous voulez, en ajoutant toutes les choses que nous voulons ajouter. Dans votre lecture, je vous prie de lire entre chapitre 3.